Bonjour à tous et à toutes, heureux de vous revoir. Et sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu et nous allons faire une première lecture dans le livre de la Genèse. Au chapitre 11, les deux derniers versets, et puis nous lirons également les cinq premiers versets du chapitre 12. Donc Genèse, chapitre 11, à partir du verset 31, je vais faire la lecture dans la traduction français courant. Donc ne soyez pas surpris s'il y a un léger décalage par rapport peut-être au texte qui s'affiche derrière moi. Verset 31. Terah emmena son fils Abraham et son petit-fils Lot, fils de Haran. Il emmena aussi sa belle-fille Sarai, femme d'Abraham. Il quitta avec eux Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils voyagèrent jusqu'à Haran et s'y installèrent, Haran ou Charan, selon les traductions. Après avoir vécu 205 ans, Terah mourut à Charan. Verset 1 du chapitre 12. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. Et à travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre. Abraham, qui était âgé de 75 ans, quitta Haran ou Charan, comme le lui ordonnait le Seigneur. Lot partit avec lui. Abraham prit donc avec lui sa femme Sarai et son neveu Lot. Ils emportaient toutes leurs richesses et emmenaient les esclaves achetés à Charan. Ils se dirigèrent vers le pays de Canaan. Amen. Ce matin, avec l'aide du Seigneur, j'aimerais vous parler du temps. S'il y a bien une chose qu'on souhaite maîtriser avant toute chose, c'est le temps. Mais il faut vraiment se rendre à l'évidence, ce n'est pas parce que j'ai une montre que je possède le temps. Ce n'est pas parce que j'ai un agenda que je remplis avec beaucoup de zèle pour toutes les semaines qui passent que pour autant je peux m'enorgueillir du fait que le temps m'appartient. Et dans le langage grec, dans la langue grecque, qui est certainement dans ce domaine-là beaucoup plus riche que la langue française, qui ne dispose que d'un mot, le mot « temps », eh bien, il y a trois mots grecs pour désigner le temps. Il y a le mot « aion », le mot « chronos » qui nous dit quelque chose, puisqu'on s'en est prévalu pour trouver les mots comme « chronomètre » ou « chronophage », et puis le mot « kairos ». Et ces trois mots grecs sont utilisés diversement dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau, selon les traductions, pour désigner une réalité temporelle différente. On va employer le mot « Aion, toutes les fois qu'on veut donner comme message aux personnes qui écoutent la parole de Dieu, que c'est un temps long, qui s'étale quasiment dans l'éternité. Prenons comme exemple, dans cette fameuse prière du Notre Père, qui se termine par « les siècles des siècles », eh bien c'est le mot « aion » que l'on va employer. Et puis il y a le mot « chronos », qui lui est davantage associé à l'existence humaine. Et si nous devions traduire l'Ancien Testament, et en particulier le livre de l'Ecclésiaste en grec, eh bien, il y a ce passage célèbre, il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Eh bien, ce mot « temps » en grec, le mot qu'on emploierait, c'est le mot « chronos ». Mais ce ne sont pas ces deux mots-là qui m'intéressent ce matin. C'est le troisième, « kairos ». « Kairos » est un temps particulier, un temps où Dieu se révèle précisément dans une vie. C'est véritablement une fenêtre qui s'ouvre dans le ciel. Et il y a dans l'existence, dans nos existences en tant que chrétiens, des temps forts, des kairos, qui sortent véritablement de la lassitude de notre quotidien, de nos chronos réguliers, où à un moment donné, précisément, à l'instant T, Dieu se révèle à nous, soit tantôt d'une façon, soit tantôt d'une autre. Et ce temps-là, il ne faut pas le rater, parce que c'est le temps peut-être de l'appel, le kairos de l'appel, c'est peut-être le temps de la guérison, le temps de la délivrance, mais ça peut être aussi le temps de l'épreuve. Et dans ce domaine-là, je crois qu'on est serré. Kairos. C'est ce mot-là en particulier qui va être désigné et utilisé dans les évangiles lorsque Zacharie, en présence de cet ange qui lui révèle dans le temple à Jérusalem qu'il va avoir un enfant, et on nous dit qu'il va douter. Il va rester muet, comme vous le savez, pendant toute la grossesse de sa femme, Élisabeth, et l'ange va justifier cette sanction par le fait de dire, et vous relirez le texte, « parce que tu as méconnu le temps dans lequel tu es ». et c'est le mot kairos qu'on a employé. Preuve, il en est que le temps qui nous est proposé par Dieu, ce temps particulier où Dieu veut faire quelque chose avec nous, où Dieu nous réveille peut-être de notre insomnie dans laquelle nous sommes tombés, il ne faut pas le rater. Et dans le premier épisode que nous allons voir ensemble, eh bien Abraham va nous aider, au travers de sa longue et riche vie, à désigner, à identifier, à rechercher ces fameux kairos. Et le premier kairos qui nous intéresse ce matin, eh bien, il se révèle au travers de cet appel particulier. Vous constatez au passage que finalement, au travers des premiers versets que j'ai lus, que c'est son père Terah, et non pas Abraham, qui a eu l'idée au départ de partir en Canaan. Curieusement, dans l'historique qui est peut-être le nôtre, dans ce qu'on a pu apprendre, on s'était imaginé que Dieu avait interpellé Abraham alors qu'il était encore à Ur, alors que ce n'est pas le cas. Il était avec son père à Haran ou Charan. Et que nous dit-on ? On nous dit que Terah, le père d'Abraham, décida de quitter Ur pour aller en Canaan. C'est ce qui est écrit. Mais ce qu'on constate avec désolation, c'est que Terah, le père d'Abraham, n'y a jamais mis les pieds, puisqu'il est mort à Charan, dans une autre ville. Et si vous aviez une carte géographique devant vous, vous constateriez que quoi ? Que la ville de Ur se situe en aval du fleuve l'Euphrate, qui se jette dans le golfe Persique. C'était une grande ville, magnifique. Canaan est donc vers l'ouest. Et quand vous cherchez la ville de Haran, ou Charan, vous constatez que cette ville est tout au nord, en amont du fleuve l'Euphrate, sur un espèce de plateau. Mais que faisait-il là-bas ? Même si dans la parole de Dieu, il n'est pas indiqué que c'est Dieu lui-même qui a dit à Terah de partir, ce qui est extraordinaire dans la parole de Dieu, c'est que les mots sont inspirés, mais les silences entre chaque mot sont aussi inspirés de Dieu. Et je veux être persuadé, je me convainc moi-même, que manifestement, c'est Dieu qui a dit à Terah, tu quittes Ur et tu vas en Canaan, si ce n'est que cet homme n'a pas obéi. Alors si on s'intéresse un peu au sens des mots, on peut constater que Terah, la signification du nom du père d'Abraham, est assez révélatrice. Son nom signifie lent, celui qui est lent. Manifestement, cet homme était lent à comprendre. Lent à se mettre en route, lent à se mettre en marche, lent à respecter et à obéir au commandement de Dieu qui lui avait demandé d'aller vers l'ouest en Canaan. Mais finalement, cet homme-là, ça nous renvoie aussi à ce que nous pouvons être nous-mêmes. Est-ce que peut-être tu as reçu hier, avant-hier, la semaine dernière, il y a un an, il y a 50 ans, un appel sur ta vie, un kairos particulier où Dieu t'avait demandé de faire quelque chose, de renoncer à quelque chose, d'aller dans une direction nouvelle. Et tu as été lent à comprendre, lent à te remettre en route et t'as pris la mauvaise direction. Et si on va un peu plus loin quant à la signification des mots, on constate que Haran ou Charan, cette ville-là, eh bien, a une signification particulière quant à son nom. Charan, ça veut dire le pays des petits fruits. Alors que Canaan, sa traduction veut dire le pays des marchands, le pays des grands fruits. Et ça, c'est quand même révélateur de quelque chose. Qu'est-ce qui a fait que cet homme, qui avait un kairos sur sa vie, un temps particulier, n'a pas voulu répondre à l'appel de Dieu et a été dans une autre direction ? Oh, il y a des motifs que l'on pourrait mettre en avant et qui sont certainement les mêmes que les nôtres pour dire à Dieu soit non, soit attends. Peut-être que la première raison concernant Terah pour ne pas obéir à l'appel de Dieu, c'est qu'il avait un besoin permanent de sécurité. Il habitait dans la grande ville de Ur qui était au bord d'un fleuve extraordinaire. Il y avait beaucoup d'activités marchandes. Alors que Dieu lui demande d'aller vers l'ouest, vers des terres inconnues. Et la distance entre la ville de Ur et Canaan est autour de 1000 km. Alors, à dos de chameau, vous imaginez. Eh bien, cet homme a décidé, par souci de sécurité, de longer plutôt le fleuve l'Euphrate jusqu'à sa source. Parce que ce fleuve, Terah le connaissait bien.
Il y avait des amis, il y commerçait, et pour lui c'était sécurisant. Combien de fois le Seigneur peut-être t'interpelle, te demande de prendre le large, d'aller vers la haute mer, et on se contente trop tristement, trop souvent, de faire du cabotage au bord des côtes. Tout simplement parce que les côtes, on les voit, et c'est sécurisant. Alors toutes les fois que le Seigneur te dit à l'instant T, au kairos de ta vie, maintenant il faut partir. Il faut que tu ailles vers ta Canaan, vers ta terre promise, là où tu produiras le maximum de fruits. Eh bien, répondons positivement à l'appel de Dieu. Même si l'eau y est plus profonde, même si les vagues y sont plus agitées, même si les tempêtes se multiplient, même si tu ne vois plus la côte, le Seigneur ne nous encourage pas à faire du cabotage, à être des marins d'eau douce, mais à être des marins en haute mer. Ne soyons pas comme Terra, lents à comprendre, lents à agir, lents à obéir. Et puis peut-être que la deuxième raison, c'est que Terra avait développé peut-être une théologie statique. Vous savez, on peut fréquenter une église pendant 30 ans, aller aux réunions de prière, connaître la Bible par cœur et être incapable, à un moment donné, de répondre à l'appel de Dieu, tellement on est figé dans une forme de liturgie religieuse. Les pharisiens au temps de Jésus connaissaient la Torah par cœur et pourtant ils n'ont pas identifié Jésus comme étant le Messie d'Israël. Et très souvent aussi, nous pouvons rentrer nous-mêmes dans une forme de léthargie théologique. Et quand le Seigneur nous invite à nous dépasser, à nous transcender, à sortir de nos sécurités, eh bien on hésite, on est comme paralysé. Quelle est l'autre raison qui pourrait justifier le fait que Terra ne soit pas partie, n'ait pas répondu à l'appel de Dieu? Eh bien c'est peut-être aussi les obstacles rencontrés. Quand il a commencé à aller vers l'ouest et qu'il s'est imaginé faire plus de 1000 km à dos de chameau dans une direction qu'il ne connaissait pas, aux premiers obstacles rencontrés, il s'est dit « Bon, on arrête là, on va suivre l'Euphrate, c'est un fleuve que je connais bien, fini l'aventure à mon âge, franchement, c'est plus le moment. » Mais si vous regardez aussi une carte géographique, vous constaterez que la distance entre la ville de Ur, où il est parti, et la ville de Charan, qui est la ville de la désobéissance, il y a autant de kilomètres entre ces deux villes qu'entre la ville de Ur et Canaan. Autrement dit, la dépense d'énergie est identique que l'on soit dans l'obéissance ou la désobéissance. Alors franchement, je crois qu'il est important, quitte à dépenser l'énergie, quitte à souffrir, comme le dit l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre, il vaut mieux souffrir pour le bien que pour le mal. Alors cet homme avait un kairos extraordinaire. Il aurait pu aller jusqu'au bout de la mission. Qu'est-ce qui aurait pu l'empêcher, peut-être, comme dernière raison? Tout simplement, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus tragique, c'est la négligence. La négligence. Ses affaires, ses activités professionnelles ont pris le pas sur l'appel de Dieu qui lui demandait de tout quitter pour aller en Canaan. Et cet homme n'a pas tout quitté. Il était habité par ses affaires commerciales. Et c'est pour cette raison qu'il est resté sur le bord de ce fleuve où il y avait tant d'activités, tant de richesses à accumuler, tant d'amis encore peut-être à aller visiter. Il n'a pas fait le pas. Et il a fallu que, alors que ce père décède, que l'Éternel renouvelle l'appel à son fils Abraham en disant: implicitement, ton père a échoué. Je lui avais demandé de partir en Canaan. Il est mort à Charan. Il est temps pour toi de te lever, de répondre à mon appel et d'aller jusqu'au bout du bout de la vision que je te donne. Si l'Éternel te donne une vision particulière, un appel particulier, eh bien c'est à toi de l'accomplir. Ce n'est pas à tes enfants ou à tes petits-enfants pour lesquels Dieu lui-même a une vision et un appel particulier pour eux. C'est triste de constater qu'une vie, finalement, se poursuit dans le temps alors qu'il y a un appel particulier sur une vie et que cette vie s'écoulant sans que cet appel ne soit satisfait. Le kairos. Alors c'est une belle image Ils sont partis de Ur. Ur, ça signifie la ville des lumières, la ville des plaisirs, la ville des joies. Et quelque part, si l'on pouvait faire une comparaison spirituelle, on pourrait dire que Ur, c'est le monde. Mais il ne suffit pas simplement de quitter le monde. Encore faut-il aller jusqu'au bout de ce que le Seigneur te demande de faire. Oui, eh bien, Théra avait quitté la ville de Ur. Il avait fait ce premier pas d'obéissance. Mais il n'a pas été jusqu'au bout. Le Seigneur souhaitait pour sa vie qu'il produise un maximum de fruits. Mais il ne pouvait produire un maximum de fruits que s'il était pleinement dans l'obéissance à Dieu, à savoir aller en Canaan, le pays des marchands, le pays des grands fruits. Et cet homme s'est contenté de produire des petits fruits, selon l'étymologie du mot « charan ». Alors qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que tu fais le choix de quitter la ville de Ur, de quitter le monde? Et c'est une bonne chose, c'est la conversion que tu as confessée dans les eaux du baptême, peut-être qu'il y a longtemps, mais ne prends pas la direction de Charan. Ne prends pas la direction de la facilité. Ne prends pas la direction de tes sécurités. Il est temps pour toi d'aller au bout de cet appel sur ta vie, de ce que le Seigneur te demande en termes de consécration, en termes de sanctification. Combien de temps vas-tu encore attendre? Canaan est pour toi, c'est ta destinée. Le Seigneur veut, pour chacune de nos vies, que cette vie-là puisse produire un maximum de fruits. Encore faut-il que nous soyons à la bonne place. Et ça, c'est important de le rappeler. Alors pour cette année qui s'écoule et qui est difficile, ne prenez pas la direction du Nord, ne prenez pas la direction de Charan, ne prenez pas la direction de ce pays où l'on produit des petits fruits, mais allez vraiment là où Dieu vous veut, soyez dans l'obéissance. Amen. Alors maintenant, il y a dans la vie d'Abraham un autre temps, un autre kairos particulier, qui lui est particulièrement cruel et que nous allons découvrir. Vous connaissez cet épisode, bien sûr. C'est toujours dans le livre de la Genèse, au chapitre 22, du verset 9 au verset 14. Vous vous souvenez du contexte? Abraham entend distinctement la voix de Dieu qui lui dit « Maintenant, je te demande une chose difficile, tu vas sacrifier ton fils bien-aimé, Isaac. » Je ne sais pas si, dans votre existence, à un moment donné, l'Éternel vous demande de sacrifier quelque chose ou quelqu'un auquel vous êtes particulièrement attaché, non pas qu'il faille le sacrifier sur un autel, mais derrière le mot « Isaac », eh bien, il se cache peut-être vos centres d'intérêt, nos centres d'intérêt, ce à quoi nous chérissons le plus, et à un moment donné, l'Éternel nous demande de le lui offrir. Et ça, c'est un exercice de style particulièrement difficile. Alors nous lisons ce texte. « Quand ils arrivèrent au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et y déposa le bois. Puis il y a Isaac, son propre fils, et le plaça sur l'autel par-dessus le bois. » Alors il tendit la main et saisit le couteau pour égorger son fils. Mais du ciel, l'ange du Seigneur l'interpella. « Abraham, Abraham !»« Oui, répondit Abraham, je t'écoute. » L'ange lui ordonna, « Ne porte pas la main sur l'enfant. Ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu respectes l'autorité de Dieu, puisque tu ne lui as pas refusé ton fils unique. » Et relevant la tête, Abraham aperçut un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla le prendre et l'offrit en sacrifice à la place de son fils. Abraham nomma ce lieu, le Seigneur y veillera. C'est pourquoi on dit encore aujourd'hui sur la montagne, le Seigneur y veillera. Voilà un homme qui est un vieillard et qui doit monter sur cette montagne et en haut de cette montagne, selon les consignes de Dieu, dans ce temps, ce kairos particulier, ce temps du sacrifice, le temps de l'épreuve, tant redouté pour chacun d'entre nous. Et il faut se dire que tant de choses ont pu être écrites et dites par rapport à cette pandémie du Covid, mais tous unanimement, je crois, nous pouvons dire que c'est un kairos de Dieu, un temps particulier, certes d'épreuves, de souffrances et de deuil, mais aussi un temps où chaque âme sur cette planète a encore la liberté de choisir entre la vie et la mort, entre Jésus-Christ et le monde. Et je veux croire que cette pandémie va être plus productrice qu'on pourrait se l'imaginer, plus fertile qu'on pourrait le supposer, au travers des âmes qui peut-être vont se tourner vers le Christ et vont comprendre que finalement, sans Dieu, on n'est rien. On veut planifier son agenda, on veut organiser sa vie comme si on s'imaginait qu'elle nous appartenait. Et à un moment donné, au temps de Dieu, au kairos de Dieu, une fenêtre dans le ciel qui s'ouvre, terrifiante, il nous appartient de choisir dans quel camp on est. Est-ce qu'on est avec l'Éternel ou est-ce qu'on est contre lui ? Donc voilà cet homme qui, dans son cœur, et on l'imagine, alors qu'il gravit cette montagne, on peut facilement comprendre ce qu'il a pu penser, de se dire « Seigneur, ai-je bien compris ? Est-ce que c'est vraiment le moment, le temps que tu as choisi pour moi, pour me faire rentrer dans cette période d'épreuve où je dois sacrifier mon fils ?» Même si la parole de Dieu n'en dit rien sur ses états d'âme, peut-être que dans ses pensées, sa communion avec l'Éternel, il a pu peut-être dire « Écoute Seigneur, moi je suis vieux, sacrifie-moi, mais laisse mon fils, il est jeune. » Peut-être qu'il a pensé ça. Peut-être qu'il a pu dire « Mais est-ce que j'ai bien compris ce que tu m'as demandé ? Est-ce que ce temps-là n'est pas trop cruel pour moi ? Je ne le supporterai pas. » Cet homme, malgré tout, gravit cette montagne. Oh, à pas lourd, on l'imagine. Retardant peut-être l'échéance en arrivant au sommet, là où le sacrifice doit avoir lieu. Mais au travers de ce temps d'épreuve que nous vivons aussi à notre façon, il y a tant de deuil dans les familles, dans le monde entier, tant d'églises sinistrées qui peut-être pour certaines d'entre elles ne s'en remettront pas, tant c'est compliqué et difficile. Et sur cette montagne de difficultés, au sommet ultime des complexités de la vie, Abraham va découvrir la solution de Dieu. Et c'est sur quoi je veux appuyer ce matin. Sur un certain nombre de principes sur lesquels j'aimerais faire reposer ma vie et sur la vôtre peut-être, toutes les fois que le kairos de l'épreuve, ce temps particulier permis par Dieu, nous allons pouvoir le traverser avec l'espérance de croire qu'il est avec nous, toujours avec nous, quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Alors le premier principe, c'est que la solution marche au pas et à l'ombre de ton problème. Tandis qu'Abraham grimpait sur un versant de la montagne, sur le versant opposé, montait le bélier. La solution de Dieu préparée pour répondre à ton problème n'est peut-être pas encore visible, et tu ne le comprendras pas toujours, mais chaque pas de ta part te rapprochera de la bénédiction qu'il a déjà préparée pour toi. Et au moment où tu atteindras le sommet de ta difficulté, tu découvriras avec stupeur que la solution que tu recherchais t'attendait déjà. Alors peut-être que ce matin, tu as une montagne à gravir. C'est peut-être la maladie, c'est peut-être le deuil, c'est peut-être un couple en grande difficulté, c'est peut-être des enfants qui partent à volo, c'est peut-être la perte d'un emploi, et on sait combien de personnes à la rentrée redoutent cette échéance. C'est ta montagne de difficultés. Comme si le Seigneur te demandait d'offrir ton travail, tes enfants, ton épouse, ta santé sur l'autel de l'obéissance. Et là, tu dis, Seigneur, je me sens tellement petit, que faire, que dire ? Il n'y a pas de solution humaine. Je gravis cette montagne de difficultés et je ne vois pas la réponse. Je ne vois pas la solution. Est-ce que ce matin, tu peux croire que la solution marche au pas de ton problème ? Et que sur l'autre versant de la montagne de tes difficultés est en train de monter le bélier de la bénédiction de Dieu ? Est-ce qu'on veut le croire ce matin ? Est-ce qu'on veut croire qu'il y a pour chacune de nos vies, pour chacun de nos problèmes, pour chacun de nos défis, un bélier Autrement dit, ce que le Seigneur a préparé pour toi pour surmonter l'épreuve et aller jusqu'au bout de ce qu'il t'a demandé. Le deuxième principe qu'il faut comprendre, c'est que la solution, elle est préparée par Dieu lui-même. Abraham ne pouvait rien faire, si ce n'est constater avec joie sa délivrance. De la même façon que le peuple hébreu qui était coincé entre les armées égyptiennes et la mer Rouge et qui ne pouvait strictement rien faire d'autre que de regarder ce que Dieu avait préparé pour leur délivrance. Ils étaient eux aussi, à leur niveau, sur la montagne de cette difficulté. Et ce bélier est apparu au travers de la manifestation glorieuse et incroyable de l'Éternel via l'intermédiaire de Moïse. Quant au problème de notre péché, qui était insoluble en soi, la solution ne pouvait venir que de Dieu en Jésus-Christ. Le troisième aspect que je souhaitais voir avec vous, c'est que la solution est à rechercher dans les lieux célestes. Vous avez lu ce passage au verset 13 où il nous est dit « relevant la tête », où Abraham leva les yeux et vit le bélier. Vous savez, nos problèmes sont tellement lourds que nous cherchons la solution là où notre tête penche, à savoir sur la terre, alors que la solution est au ciel. Vous connaissez ce psaume 121, verset 1, qui nous dit « Je lève les yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours ? Mais le secours me vient de l'Éternel. » Et je crois que ce matin, une fois de plus, même si peut-être vous êtes venu la tête baissée vers la terre, tant les fardeaux qui sont les vôtres sont importants et lourds, tant les montagnes que vous devez gravir sont importantes et ténébreuses, c'est le temps encore pour toi ce matin de relever les yeux. Parce que c'est vers le ciel, vers ce ciel de gloire, vers le trône de la grâce, que nous trouverons la solution pour chacun d'entre nous. Encore faut-il y croire. Et puis, autre aspect important à connaître, c'est que la solution de Dieu, elle est toujours miraculeuse. Vous saviez que les béliers ne grimpent d'habitude jamais à cette altitude-là ? Et pourtant, l'Éternel a fait en sorte à ce qu'il puisse susciter un bélier qui supporte l'altitude. C'est-à-dire que l'Éternel est capable de changer les lois de la nature rien que pour toi. C'est quand même extraordinaire. Et puis, dernier aspect, c'est que la solution est peut-être plus simple que tu ne le penses. Vous savez, le bélier faisait partie de l'univers quotidien d'Abraham. Un bélier, il en rencontrait périodiquement. Et parfois, la solution de Dieu, celle qui monte au pas, mais sur l'autre versant de la montagne de ta difficulté, est une solution peut-être plus facile, plus simple que tu ne l'imaginais. Parfois, on complexifie les choses, on complexifie l'Évangile, on complexifie les solutions de Dieu. Et parfois, l'Éternel nous renvoie à notre bon sens, à notre intelligence, à la foi simple des enfants, pour découvrir la solution qui est peut-être plus proche que tu ne le penses de toi. Alors je l'ai dit, la solution marche au pas et à l'ombre de ton problème. Mais j'aimerais, pour terminer, te rappeler que l'inverse aussi est vrai. Le problème marche au pas et à l'ombre de ta désobéissance. J'en veux pour preuve cet épisode que l'on connaissons bien, celle de Jonas, où l'Éternel lui dit dans un temps particulier, tu vas aller vers l'Est, vers Ninive, vous connaissez l'histoire, pour dire, voilà, encore tant de jours, repentez-vous. Et Jonas n'a rien trouvé de mieux que d'aller vers l'Ouest, en direction de Tarsis, et on nous dit qu'il a pris un bateau, qu'il en a payé le prix du billet. Je peux vous dire que quand on est dans la désobéissance, on en paye toujours le prix. C'était un temps particulier pour Jonas en tant que prophète de l'Éternel. C'était son kairos à lui. Il fallait qu'il annonce aux Ninivites que c'était un temps de grâce pour eux, qu'il fallait saisir. Et Jonas a privilégié autre chose. Mais à l'instant même où Jonas a mis le pied sur le bateau de la désobéissance, en direction de l'ouest, vers le soleil couchant, comme si finalement Jonas se couchait sur les pieds du diable. À l'instant même, l'Éternel suscita un gros poisson en Méditerranée pour faire son œuvre que nous connaissons, de telle sorte à ce qu'à un moment donné, à l'instant T, le bateau rejoigne le poisson avec la suite de l'histoire que vous connaissez. À l'instant même où il a mis le pied dans le bateau. Le problème marche lorsque il y a un problème dans notre vie. Marche au pas et à l'ombre de notre désobéissance. Des scientifiques ont fait une recherche intéressante en lien avec l'histoire du Titanic, que vous connaissez bien sûr. Ils ont démontré que le temps nécessaire pour l'iceberg de se détacher de la banquise et de dériver jusqu'au point d'impact correspondait au premier jour de la construction du bateau jusqu'au choc fatal. Autrement dit, le jour où le propriétaire du bateau a pu affirmer, comme vous le savez, ce bateau est insubmersible et Dieu lui-même ne pourrait pas le couler, eh bien cet iceberg s'est détaché du Groenland pour rejoindre ce bateau dans cette course funeste avec les 2000 et quelques morts que nous connaissons. Alors mes amis, je veux conclure maintenant. Nul ne peut dire sur cette terre, a fortiori les enfants de Dieu, qui n'ont jamais expérimenté un kairos de l'Éternel. Parce que dans la chronologie de notre existence, de la date de notre naissance jusqu'à la date de notre mort, Dieu va susciter comme des flashs dans nos vies spirituelles, des kairos, des temps particuliers, des temps d'appel, on l'a vu. Des temps d'épreuve parfois, nous l'avons vu également. Des temps aussi de délivrance, des temps de consécration, des temps de guérison. Toutes sortes de temps qui vont nous permettre d'édifier notre foi et de faire en sorte à ce que nous puissions poursuivre ce chemin sur la terre avec la joie de savoir qu'on est bien à notre place pour y produire un maximum de fruits. Alors mes amis, ce matin, si tu as quitté Ur, gloire à Dieu. Si ce n'est pas encore le cas, si tu n'as pas encore abandonné la ville des Lumières, les plaisirs de ce monde, il est temps pour toi de t'arracher à cette ville, de t'arracher à cette vie-là et à rentrer pleinement dans l'obéissance à Christ. Et si tu as déjà quitté la ville de Ur et que tu es tenté par la ville de Charan, dans une direction opposée à celle que le Seigneur souhaite pour ta vie, parce que tu considères que Charan, c'est plus facile, c'est plus sécurisant, c'est ta zone de confort. Il est temps maintenant de changer de route et de pouvoir aller là où tu vas produire un maximum de fruits. Et tu ne produiras un maximum de fruits que si tu es pleinement dans l'obéissance à Christ. Et si d'aventure, tu es dans ce temps d'épreuve, et là aussi, qui peut s'enorgueillir ici de dire « Moi, je n'ai jamais eu d'épreuve dans ma vie. Dieu n'a jamais permis qu'il y ait eu la moindre épreuve. Cet homme-là serait un menteur. Nous avons tous des kairos d'épreuve. » Eh bien, mon ami, toi qui peut-être es en train de gravir cette montagne de difficultés dans les pleurs, parce que tu es découragé, parce que tu es désespéré, parce qu'il n'y a pas de solution humaine, parce que tu as déjà tout essayé, parce que tu as mobilisé ton intelligence, tes amis, tes relations, ton argent, et que rien n'y fait. Tu as crié à l'Éternel. Et tu montes l'âme en peine. Crois ce matin que la solution à ton problème marche au pas de ce dernier. Et qu'un jour, l'Éternel te donnera cette grâce de voir ton bélier, de voir la solution que l'Éternel a pour toi et qui te réjouira parce que Dieu est un Père et qu'il aime ses enfants et qu'il veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Encore faut-il que nous nous saisissions de ses promesses, que nous saisissions de ce qu'il est vraiment pour chacune de nos vies, à savoir celui qui pourvoit à nos besoins, celui qui nous accompagne dans la vallée de l'ombre de la mort. Alors si tu as le sentiment de ne plus le voir ni de l'entendre. Rassure-toi par le fait que lui, il te voit. Lui, il t'entend. Lui, il ne t'a pas oublié. Et il se précipite déjà pour chercher le bélier qui te correspond, pour ainsi faire en sorte à ce que tu puisses avoir ta solution. Sois dans l'obéissance. Soyons dans l'obéissance. Soyons et saisissons les kairos de Dieu avec confiance ce matin. Je vais prier. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te rendons grâce encore pour cette parole que nous avons méditée ensemble et qui nous rappelle que tu es un Père pour chacun d'entre nous, que tu ne nous abandonnes pas et que dans les montagnes de nos difficultés, dans les souffrances de notre quotidien de vie, que tu permets au travers de kairos particuliers, de temps plus ou moins longs, nous expérimentons et nous expérimenterons encore cette grâce particulière de ne pas être abandonné de toi. Ton Fils bien-aimé a dit qu'il serait tous les jours avec nous, dans les bons comme dans les mauvais jours, dans les jours de joie comme dans les jours de peine, dans les jours de souffrance comme dans les jours de guérison. Alors Père, même si nous grimpons sur nos montagnes de difficultés, même si nous sommes dans les pleurs, nous voulons faire comme Abraham et relever les yeux vers toi, notre Père, parce qu'il n'y a qu'au travers de toi que nous pouvons véritablement vivre en nouveauté de vie. Père, aide-nous à renoncer et à abandonner nos vieilles habitudes. Tout ce que nous avons pu vivre encore dans la ville de Ur, peut-être que nous avons encore des attaches, que nous nous en détachions. Et que Seigneur, nous produisions un maximum de fruits, parce que tu ne peux nous reprendre aujourd'hui. Et que pourra-t-on dire devant toi, si nous disons nous avons enterré tes dons, nous avons enterré nos talents, nous avons été à Charan, nous avons certes produit des petits fruits, mais c'était tellement plus sécurisant pour nous. Oh Seigneur, nous ne voulons pas vivre cela, mais nous voulons nous réjouir, comme l'apôtre Paul avant nous, qui pouvait dire « J'ai terminé ma course en vainqueur ». Et nous voulons terminer notre course terrestre en vainqueur. Nous voulons faire en sorte à ce que cette vie sur cette terre, pour chacun d'entre nous, ne soit pas vaine, ne serve à rien, mais qu'au contraire, elle produise un maximum de fruits pour la gloire de Dieu et pour le bénéfice de notre prochain. Amen. Amen.
Nous espérons que vous avez été encouragés par ce message. Pour plus de renseignements sur notre Église ou découvrir d'autres messages de l'Évangile, n'hésitez pas à visiter notre site églisecielouvert.com et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Nous vous invitons également à nous retrouver chaque semaine à Saint-Étienne-du-Rouvray pour nos différentes